France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Cette semaine, il s'est passé des choses sur le marché de la voiture électrique. BYD, les Chinois, est passé devant Tesla, pas seulement parce qu'Elon Musk est devenu l'homme que tout le monde déteste. Les Chinois ne sont pas fous. Il y a un marché, évidemment, ils y sont. L'autre facteur qui nous intéresse ce soir, c'est l'arrivée doucement, bientôt en nombre, des petites citadines électriques au-dessous des 20 000 euros. Ça reste une somme, hein. Une voiture thermique neuve, désormais dans les mêmes gammes, tourne autour de 12 500 euros. Mais la question se pose en ces termes-là, sommes-nous dans le dernier kilomètre avant la démocratisation de l'électrique? Est-ce qu'on est à deux doigts avant l'électrique pour tous, enfin, ou décidément encore très loin du compte? Alors qu'est-ce qu'on regarde pour le savoir? L'occasion sur le marché, est-ce qu'il commence à y en avoir ou pas? Est-ce que c'est ça qui fera décoller le marché? Je vais quand même rappeler un chiffre, pour l'instant vous êtes 85% à acheter vos voitures d'occasion. La marche est donc à monter assez haute. D'autant que pour ceux qui choisissent quand même le neuf, les bonus et autres leasing, même s'ils revenaient ou augmentaient, résisteront-ils aux besoins urgents pour financer bien autre chose en ce moment? Suivez mon regard vers la défense. Alors qu'est-ce qu'on regarde encore? On regarde bien sûr la rentabilité. Est-ce que nous sommes à la veille ou à l'avant-veille d'une meilleure rentabilité électrique, et surtout en combien de temps amortir tranquillement un coût d'achat qui reste haut? On regarde évidemment la recharge pour savoir s'il faut rajouter au pot pour vous convaincre. Les recharges ultra rapides à 5 minutes, est-ce qu'elles vont se multiplier? À quel rythme? Où sont-elles? Et puis on regarde le prix de l'électricité, celui de la borne, parce que si vous payez plus cher encore qu'un plein d'essence dès lors que vous ne rechargez pas chez vous, inutile de jouer, c'est perdu d'avance. Alors est-ce qu'on y est? Comment on y entre dans ce dernier kilomètre avant la démocratisation de la voiture électrique? C'est la question de ce soir. Et c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Sylvain, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On vous écoute, allez-y.
Donc moi j'ai une voiture électrique depuis 5 ans, je fais à peu près 20 000 km par an, je fais des trajets classiques et puis aussi de très longs trajets. Moi je peux dire que mon expérience est plutôt positive parce qu'en termes de tarifs de recharge, je recharge beaucoup à la maison. Donc c'est vrai que ça me coûte pas beaucoup plus cher, beaucoup moins cher que le thermique. Mmh. Par contre sur les longs trajets, alors il y a deux choses. La première c'est que c'est toute une philosophie différente de conduite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire... Moi, j'habite dans le nord de la France, je ne peux pas aller voir mes parents dans le sud aussi rapidement que ce que je pourrais avec une thermique. Donc, il y a des arrêts plus longs pour la recharge, mais on fait les arrêts différemment aussi. Donc, on prévoit en resto, on fait des pauses plus longues. Par contre, la seule chose que je reproche aujourd'hui, c'est la jungle des cartes de recharge, les prix qui ne sont pas clairement affichés, surtout sur les bornes de recharge rapides sur les autoroutes. C'est un peu la jungle et je pense que c'est aussi un gros frein pour beaucoup de gens de se dire lorsque je vais partir, y a un trajet à planifier différent, je ne sais pas où je vais m'arrêter, je vais payer plus cher, etc.
Et puis je sais pas combien ça va coûter en fait au fur et à mesure, surtout Sylvain, non?
Oui, alors il faut dire aussi qu'en France on est assez... Moi je voyage aussi beaucoup en Belgique, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Les prix sont hyper excessif dans ces trois pays. Donc la France est quand même bien lotie en termes de tarifs, mais c'est vrai que moi j'ai fait des calculs sur un trajet sur autoroute à 130, l'électrique est à peu près au même niveau que le thermique. Mais sur la globalité, si vous regardez sur une année, vu que je recharge beaucoup à la maison, je paye quand même deux fois moins cher qu'un thermique.
Et est-ce que vous avez su... Vous l'avez acheté neuf ou pas, Sylvain, il y a 5 ans, oui?
Oui, je l'ai acheté neuf en LOA.
Ok. Est-ce que vous savez à peu près à quel moment vous êtes arrivé à la rentabilité, justement, par rapport au calcul que vous faites sur l'électricité et le reste? Est-ce que vous vous dites, finalement, ça a été à peu près aussi rapide ou aussi lent, ça dépend de quel point de vue on se place, que si vous aviez acheté une voiture thermique?
Alors, moi, quand je l'ai acheté, il y avait beaucoup d'aide à l'époque. Il y a eu 6 000 euros d'aide. Le LOA était bas. Donc c'est vrai que la valeur de reprise a aussi été élevée. Donc du coup, moi je vais vous dire une chose, je paye 380 euros par mois de LOA en ce moment. La rentabilité a été faite au bout de deux ans à peu près.
D'accord, ce qui semble être d'ailleurs une moyenne. Je vous remercie Sylvain, parce que vous avez, grâce à votre question, grâce à votre témoignage, beaucoup balayé de thèmes qui seront les nôtres ce soir jusqu'à 20h pour discuter ensemble autour de la table. Il y a Clément Molison, bonsoir.
Bonsoir.
Délégué général de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, il y a Léo Larivière, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable transition automobile du think tank transport et environnement. Clément Molison, il est... il est assez conducteur typique, en fait, notre ami Sylvain, c'est-à-dire sur le temps de rentabilité, et puis sur les choses qui ne sont pas réglées et qui sont le kilomètre à franchir, c'est-à-dire la jungle, dit-il, et l'incertitude de la recharge. Vous êtes d'accord avec lui ?
Ouais, tout à fait. C'est un conducteur typique de voiture électrique. Aujourd'hui, 93% des utilisateurs sont satisfaits de leur véhicule, et c'est ce que traduit le témoignage de Sylvain. J'entends aussi, effectivement, les points d'amélioration. Ce qu'il faut se dire quand même sur une voiture électrique, c'est que l'essentiel des recharges se font dans le domaine privé. Le budget carburant, on ne le regarde pas juste sur une recharge sur autoroute. Quand on regarde son budget carburant global, c'est divisé par 3. Donc c'est quand même des postes conséquents. Et effectivement, la rentabilité, alors 2 ans, c'est assez rapide. On peut être sinon sur 3-4 ans sans trop de difficultés en utilisant son véhicule de façon conventionnelle.
Mais si la plupart des recharges en ce moment se font à la maison, effectivement, ça veut dire que l'usage, contrairement à Sylvain d'ailleurs, qui fait 20 000 km par an, l'usage est resté finalement un usage très local autour de la maison ou pas. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, on peut dire que oui, on commence à se lancer dans le long trajet avec une voiture électrique sans trop avoir peur ?
Oublions pas que la moyenne quotidienne des trajets des Français, c'est 30 km. C'est pas 300, c'est encore moins 3 000.
Ouais, ouais.
20 000 km, c'est quand même la tranche haute aujourd'hui.
C'est d'ailleurs un souci, 30 km, si je puis me permettre. Enfin, je veux dire, ça se dit qu'on devrait pouvoir les faire différemment, mais allez-y, ouais.
On est plutôt un utilisateur typique, il est plutôt entre 10 000 et 11 000 km. Et oui, aujourd'hui, la voiture électrique, elle n'est plus cantonnée qu'au trajet du quotidien. L'été dernier, 60% des utilisateurs de voitures électriques sont partis avec leur voiture électrique. Globalement, les gens préfèrent partir en électrique. Et sur les grands axes routiers, maintenant, il y a de la recharge rapide et ultra rapide partout. Sur toutes les aires de service autoroute, il y a des recharges ultra rapides.
Ultra, c'est combien donc ?
Ultra, c'est au-delà de 150 kW, donc c'est des recharges en 20-30 minutes.
D'accord.
Globalement, l'idée, c'est de suivre les recommandations de la sécurité routière. Vous arrêtez toutes les 2 heures, 15-20 minutes. Vous savez que quand vous arrêtez pour 15 minutes, généralement, vous arrêtez plutôt pour 20 minutes, et donc vous avez le temps de vous recharger et de repartir et de faire les kilomètres qui suivent.
Et recharge rapide, ça c'était ultra rapide, donc 20-30 minutes, ultra rapide, ça c'était ultra rapide, pardon, ouais. Rapide, c'est combien ?
Rapide, on est sur plus d'une heure. Après, quand vous prenez la route avec une voiture électrique, vous faites quand même avec une voiture thermique, vous prenez votre téléphone, vous mettez votre GPS, vous calculez votre trajet,
bien sûr, pour
et
aller
vous avez des applications
borne,
qui vous dites où vous arrêtez, à quel moment, combien de temps. Aussi, sur le prix, elles vous disent combien ça pourrait vous coûter. Et après, c'est vrai qu'on pourra y revenir, mais sur le prix, il y a plein de possibilités de paiement. Et donc avec ça, à la fois des bonnes affaires et puis parfois des moins bonnes.
Léo Larivière, je voudrais revenir à ce qui justifie au fond notre sujet pour nous demander si des Sylvains, il y en a réellement de plus en plus. Donc si on est en train d'entrer aujourd'hui dans une démocratisation, dans le dernier kilomètre, comme on le disait en titre, ou si il nous en reste une bonne centaine de bornes à faire avant d'être vraiment sur quelque chose qui serait au fond un réflexe presque naturel.
Oui, merci Fabienne. Effectivement, peut-être juste revenir sur un des points que Sylvain a mentionné, qui est très important, c'est la question des coûts d'utilisation de la voiture électrique. Parce qu'on a aujourd'hui en France un gros problème de précarité mobilité qui est lié à l'utilisation et à la dépendance vis-à-vis de voitures thermiques de plus en plus anciennes, de plus en plus coûteuses. Et les auditeurs le savent bien, pour ceux qui sont obligés de prendre leur voiture tous les jours, la voiture thermique, c'est un coût qui est très important dans le budget des ménages. Et de ce point de vue-là, la voiture électrique, c'est une politique sociale qui permet finalement d'alléger le budget des Français en termes de mobilité. Et l'exemple de Sylvain le montre très bien. Finalement, dans la voiture électrique, on a un surcoût au départ, un investissement de départ qui est un peu plus élevé, mais cet investissement, il va être rentabilisé assez rapidement, au bout d'un certain nombre de kilomètres, en moyenne 2 ans, 3 ans, et à partir de là, on commence à faire des économies. Donc là, c'est un point qui n'est quasiment jamais entendu, hein. On entend souvent que la voiture électrique est plus chère que la voiture thermique. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et en réalité, on aurait tous intérêt d'un point de vue financier accélérer cette transition.
C'est ça. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une comparaison ? Une voiture thermique est rentabilisée au bout de combien de temps ? Si vous dites que c'est 2 ans, 3 ans pour une électrique aujourd'hui. En revanche, pour une thermique, ce serait quoi ?
Alors moi, je parlais plutôt de la différence de coût entre le thermique et l'électrique. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 ans d'utilisation d'une voiture électrique, on fait des économies par rapport à si on avait choisi une voiture thermique équivalente. Donc ça, c'est pour le marché des voitures neuves. Mais il y a une étude de l'UFC Que Choisir qui est sortie il y a maintenant une semaine et qui montre que cet effet-là est encore plus important pour le marché de seconde main, donc les voitures électriques qui vont être achetées d'occasion. Et c'est encore plus vrai pour les voitures électriques qui vont être achetées une deuxième fois d'occasion, puisque forcément, le coût à l'achat, il est moins important. important. Mais alors, on maximise finalement cet intérêt économique sur l'usage.
Et on va y revenir, Léo Larivière, parce que Clément Molison, c'est bien là peut-être le nœud du problème. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un marché de l'occasion ? Je disais en introduction qu'il y a 85% des gens qui achètent leur voiture d'occasion. Enfin, je veux dire, les gens n'ont pas les moyens de mettre 12 500 euros dans une voiture neuve, donc encore moins 20 000 euros, même si on arrive effectivement aujourd'hui à des prix qui sont un peu plus bas qu'ils n'ont pu l'être sur l'électrique. Mais oui, est-ce qu'on peut dire qu'il commence à y avoir un marché de l'occasion ? Et surtout, est-ce qu'il est fiable, le marché de l'occasion ?
Oui, effectivement, il y a un marché de l'occasion. En 2024, c'est 136 000 véhicules qui ont été vendus sur le marché de l'occasion, de véhicules électriques qui ont été vendus sur le marché de l'occasion. C'est 50% de plus que l'année précédente. Donc on voit que d'année en année, on a ce marché qui se constitue, qui est d'autant plus intéressant à regarder aujourd'hui que le boom de l'électrique, c'est en 2020. Et que traditionnellement, dans l'automobile, on a un passage de la première à la seconde main autour des 3-4 ans. Donc il est en train de se constituer, il va continuer à se développer. Mm-hmm. Et vous me posez la question de la fiabilité. Oui, les voitures électriques, elles sont fiables.
Elles
sont fiables en deuxième main, elles sont même fiables en troisième main. Ouais. Une voiture électrique, sa durée de vie, elle est entre 15 et 20 ans, donc c'est équivalent à une voiture thermique. Et par ailleurs, comme elle est plus confortable, elle vibre moins, il y a moins de pièces, elle vieillit beaucoup mieux. Donc on peut faire confiance dans les voitures électriques d'occasion. Et puis en plus, on peut tester la batterie. Si jamais on n'a pas assez confiance, on peut accéder à plein de capteurs pour savoir où est-ce qu'elle en est de sa vie.
Alors on va y revenir effectivement au marché de la seconde main, ce que ça veut dire et ce que ça vaut. Mais je voudrais d'abord qu'on rejoigne Théophile qui nous attend. Bonsoir Théophile.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir Fabien Sintès, bonsoir à tous. Moi je voulais juste témoigner pour un ménage qui gagne moins de 3000 euros. Avec un enfant à charge, donc c'est marrant que vous parliez de 2020, mais nous on a acheté une voiture thermique en occasion en 2020, en occasion donc. À l'époque on s'était quand même posé la question, c'était absolument inaccessible quoi. Étant donné qu'on habite en immeuble, étant donné que c'est vrai qu'apparemment on peut recharger je ne sais où, mais c'était encore assez obscur peut-être à l'époque. Aujourd'hui, quand on voit les prix, c'est vrai que ça laisse un peu pantois dans le sens où le prix de base, en fait, c'est-à-dire le coût d'entrée, on va dire, est quand même assez élevé, quoi. Moi, j'ai bien compris l'intérêt écologique, j'ai bien intégré, j'ai bien étudié ça. Par rapport à la thermique, il n'y a aucun problème, mais bon, là, j'ai une diesel. Voilà.
Théophile, merci beaucoup pour cette intervention, pour votre remarque. Léo Larivière, évidemment que ça reste un frein. Oui, les petites citadines sont en train d'arriver, et oui, on est en train de passer sous une certaine barre, mais ça reste assez haut. On reviendra sur l'occasion tout à l'heure, et sur ce que dit aussi notre auditeur, d'ailleurs, sur l'accessibilité aussi de certaines bornes quand on habite dans un immeuble. Mais j'ai quand même une question qui me vient à l'esprit en écoutant Théophile, Léo Larivière. Pourquoi 20 000 euros, grosso modo. Enfin, on a un peu l'impression, par ailleurs, c'est ce que j'ai lu en fait assez récemment dans un journal, on a un peu l'impression que ce prix-là, il est fixé comment en fait ? Pourquoi finalement c'est plus cher qu'une voiture thermique quand on en est là aujourd'hui ?
Alors là-dessus, il y a un point qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est le fait que le marché automobile, c'est en réalité deux mondes qui sont assez distincts. On a d'un côté le marché des voitures neuves et ensuite on a le marché des voitures d'occasion. Et en fait, sur le marché des voitures neuves, on retrouve des clients qui sont extrêmement particuliers. On a d'un côté les particuliers, les ménages plutôt aisés, plutôt âgés, plutôt masculins. Et de l'autre, on a les entreprises. Et en fait, ces voitures électriques neuves, elles vont d'abord et en priorité être achetées par ces acheteurs-là, qui ensuite, une fois qu'ils vont revendre leur voiture sur le marché de l'occasion, vont pouvoir être achetées par la majorité des Français, puisque vous l'avez dit, en introduction de la question, en fait, 85% des gens, aujourd'hui, achètent leur voiture d'occasion, que ce soit des thermiques comme des électriques. Donc, en fait, il ne faut pas penser que la majorité des Français va se mettre à acheter des voitures électriques neuves à des prix qui ne leur sont pas accessibles parce qu'ils ne faisaient déjà pas ça en thermique. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est organiser cette structuration du marché des véhicules neufs, faire en sorte qu'on puisse avoir une accélération de l'électrique sur ce marché-là, de façon à ce que, rapidement, on puisse avoir des véhicules électriques abordables sur le marché de l'occasion qui soient accessibles à toutes et à tous.
J'ai une frustration, Clément Molison, sur le prix. En fait, je voudrais comprendre comment marche la fixation. En fait, pourquoi c'est aussi cher par rapport à une thermique ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une vraie différence entre électrique et thermique ?
Il y a pas mal de facteurs. L'un des facteurs, c'est qu'on en produit beaucoup moins que des véhicules thermiques. Dans les autres facteurs, c'est aussi que les matériaux, la façon dont on produit ces véhicules est plus coûteux que le marché, que le thermique.
Donc si on produit moins, ça veut dire que si enfin on monte sur la marche supérieure effectivement et qu'on se met à produire plus, est-ce que ça veut dire, et est-ce qu'on peut donner un horizon, est-ce que c'est, j'en sais rien, 2030, 2035, 2040, j'en sais rien, est-ce qu'on pourra dire à un moment que oui, on sera à peu près sur la même gamme de prix entre électrique et thermique?
Oui, bien sûr, il n'y a aucune fatalité. Les prix de l'électrique ne vont pas rester à vie, ad vita aeternam, au-delà du thermique. Pendant un temps, on donnait un horizon autour de 2027.
Okay.
Bon, la crise économique et l'inflation sont passées par là, donc on peut peut-être repousser plutôt vers la fin de décennie. Mais oui, il y a tout à fait un horizon dans lequel on aura des véhicules électriques qui seront à parité avec le thermique, puis qui seront peut-être moins chers.
Léo Larivière, et puis ensuite on retourne au standard. Allez-y, monsieur Larivière.
Oui, un élément intéressant aussi, c'est qu'en Chine, on a déjà la moitié des véhicules électriques qui sont déjà moins chers ou aussi chers que les voitures thermiques. Donc ça montre bien qu'à partir du moment où on arrive à massifier ce marché, on finit par avoir une parité de prix. Peut-être un dernier élément qui est intéressant sur le coût des voitures électriques. En fait, ce qu'on observe depuis les dernières années, c'est une baisse du coût des batteries. Et donc nous aurions dû avoir finalement, en conséquence, une baisse du coût d'achat des voitures électriques. On ne l'observe pas en Europe pour une raison qui est assez simple, qui est la stratégie des constructeurs automobiles européens, qui globalement ont fait le choix depuis maintenant 10 ans de se concentrer sur des voitures de plus en plus premium, de plus en plus SUV, de plus en plus chères. Et cette stratégie, elle a été appliquée aux voitures électriques. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que on n'a pas eu finalement cette baisse du coût des voitures électriques comme on aurait dû l'avoir si ces constructeurs avaient concentré leurs efforts sur la production et la commercialisation de voitures électriques de petite taille.
On va le dire un peu trivialement, Léo Larivière, les constructeurs ont cru longtemps que c'était voitures de riches, donc on fabrique des voitures de riches, est-ce qu'on peut le dire comme ça?
On peut exactement dire ça, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le pari de se dire notre marché, c'est un marché de particuliers aisés et d'entreprises, et pas un marché de masse. Ce qui n'a pas toujours été le cas en France, pendant tout un temps historique assez long, finalement, les constructeurs ont produit des véhicules d'entrée de gamme en France, des véhicules populaires, et donc il y avait possibilité pour plus de ménages d'aller sur le marché des véhicules neufs. Depuis 10 ans, ils ont fait un choix complètement inverse, et ça s'est vu dans la gamme des produits qui sont aujourd'hui proposés. Cette stratégie a été appliquée aujourd'hui aux véhicules électriques, et il est urgent d'en sortir, parce que quand bien même, finalement, on pourrait accéder en seconde main à ces véhicules électriques, un SUV électrique sera toujours plus cher, même en seconde main, qu'un petit véhicule électrique. Donc finalement, il y a un sujet, évidemment, climatique, environnemental, à sortir de cette stratégie de suffisification, mais il y a aussi et surtout peut-être un sujet de politique sociale. Si on veut maximiser le bénéfice en termes d'économie pour les automobilistes du passage à l'électrique, il va falloir sortir de cette stratégie de suffisification.
Voilà, et puis peut-être revenir aussi au fameux leasing qui avait extrêmement bien marché, mais du coup qui a été extrêmement restreint dans le temps, et on ne sait pas non plus ce que vont devenir les bonus, enfin on sait ce que ça veut dire en termes de budget en ce moment, et si à terme finalement, regardez ce qu'ont fait les Allemands, si à terme il n'y en aura plus du tout. C'est un horizon ça, Clément Molison, ou pas?
Alors, les Allemands reviennent quand même là-dessus.
Parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement il y a eu un trou d'air monumental.
Ce qui est le plus catastrophique en fait sur le marché automobile et notamment la transition énergétique, c'est les effets de stop and go. C'est-à-dire on donne de l'argent, on arrête, on redonne plus, on arrête. Parce que on n'achète pas une voiture comme on va acheter son pain. On prévoit son achat, on regarde. Quand on commence à être ouvert à l'idée d'acheter une voiture électrique, on regarde beaucoup, on teste beaucoup, et forcément on regarde quelles sont les aides dont on pourra bénéficier. Et donc à ce moment-là, effectivement, ça a un impact. Donc il faut maintenir les aides, il faut surtout maintenir de la stabilité et avoir qu'on sache quelles seront les aides en 2025, en 2026, en 2027, et ainsi de suite.
Alain est avec nous. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, je vous appelle de Rion et je roule en voiture électrique une Renault depuis 2014. C'est un véhicule qui est de 2011 et il y a une chose qui me surprend, c'est qu'on parle rarement de l'absence d'entretien, enfin de l'économie liée à l'absence d'entretien. Je l'ai emmené une fois chez Renault, ils m'ont mis de la glace parce qu'ils n'en avaient plus. Ils ne me l'ont pas fait payer, c'était gentil. Et sinon, il n'y a rien à faire, quoi. Et ça, tous les ans, c'est une économie importante. Les constructeurs, les médias n'en parlent pas.
Eh ben, parlons-en. Voilà. Comment se fait-il, Léo Larivière, par exemple, que... je vais le poser autrement. Est-ce que Alain a eu de la chance? Il est tombé sur une sacrée bonne bagnole parce que depuis 2014, il n'a rien eu besoin de faire à part du lave-glace. Ou est-ce qu'on peut dire que, en termes d'entretien, c'est plus facile?
Non, non, il n'a pas eu de chance, hein, c'est effectivement le cas, et ça fait partie alors. Justement, oui, enfin disons qu'il a eu de la chance, mais c'est le cas de tous les automobilistes qui ont des voitures électriques, puisqu'effectivement on a moins besoin d'entretenir et de faire de la maintenance sur son véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique, et ça fait partie justement des économies sur l'usage que l'on peut avoir avec une voiture électrique. Mais ce qui est assez intéressant aussi dans le témoignage de Alain, c'est le fait qu'effectivement, nous n'en parlons jamais. Et c'est vrai que c'est super de pouvoir faire cette émission aujourd'hui, parce que de façon générale, ce qu'on entend sur la voiture électrique aujourd'hui, c'est que du négatif, c'est que des difficultés, et tous les bénéfices qui sont réels, hein, et qui sont aussi le fruit de tous ces retours d'expérience de terrain de la part de ceux qui utilisent ces voitures, on ne l'entend quasiment jamais, et notamment celui-là. Donc ça, c'est vraiment un point important qui fait aussi une forme de brouillard informationnel compliqué autour du véhicule électrique, puisqu'on entend tout et son contraire, et finalement, on a du mal à savoir, effectivement, quels sont les avantages, alors qu'ils sont réels.
Une remarque, avant de retourner au standard, et qui fait écho à une partie de la question de notre auditeur précédent qui avait fini par acheter un diesel et qui dit habiter un immeuble. On a Christian sur l'appli qui dit bonsoir, ok pour la voiture électrique, mais il faut des prises pour effectuer le chargement. Quand on habite dans une résidence ancienne, avec un parking privé, mais sans équipement spécial, comment on fait? Ce qu'on a bien compris, c'est que si on peut se brancher chez soi, Clément Montlison, non seulement c'est facile, mais surtout c'est moins cher. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'équipement chez soi, ou en tout cas un système pas cher, y compris dans une résidence qui serait une résidence collective, ça disqualifie la voiture électrique?
Alors, juste avant de vous répondre, quand même dire qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible, quand on est en résidentiel collectif, quand on est en copropriété par exemple, de faire installer des prises de recharge. Et c'est beaucoup moins compliqué qu'il y a quelques années, et beaucoup moins compliqué qu'on le dit encore aujourd'hui.
Moi, je n'ai pas de parking, je n'ai pas de garage,
évidemment,
rien de tout ça,
avoir...
je ne pourrais le faire.
Bien entendu, évidemment, il faut avoir un parking. C'est aussi plus compliqué de se garer quand on n'a pas de parking en copropriété, parce qu'on doit compter sur la rue. D'abord, quand on a un parking, vous avez aujourd'hui des opérateurs, vous avez des acteurs publics qui proposent des solutions, il y a des accompagnements financiers conséquents. Nous, dans le cadre d'Aver France, on a un programme Advenir qui finance des bornes de recharge, qui finance des infrastructures de recharge. Donc renseignez-vous là-dessus, on a plein de contenus en ligne pour vous accompagner. Quand on n'a pas de place de stationnement, là c'est le second point de la question. Nous, on milite très fortement pour qu'il y ait une vraie réflexion qui soit faite, pour qu'il n'y ait pas une mobilité électrique à deux vitesses. Pour qu'en réalité, la mobilité électrique ne soit pas mobilité électrique versus mobilité thermique, mais j'ai une place de stationnement chez moi et j'en ai pas. Pour ça, il y a des réseaux de recharge qui se développent en voirie, des réseaux que vous pouvez trouver sur la rue quand vous êtes en ville.
Mais qui sont plus chers que l'électricité qu'on paierait chez soi.
Qui est forcément un peu plus cher, mais comme on peut avoir des tarifs résidentiels de stationnement, on peut aussi mettre en place, et c'est déjà le cas de certains opérateurs, des tarifs résidentiels pour payer sa recharge.
Ça reste un frein quand même de se dire que, de toute façon, là pour le coup, on parlait de rentabilité tout à l'heure en se disant qu'au bout de deux ans, trois ans, peut-être, on peut y être. Là pour le coup, ça augmente aussi la rentabilité, alors que le coût de départ reste un coût très élevé.
Ça peut le retarder un petit peu, mais encore une fois, tout ça, c'est des politiques à mettre en place et des politiques tarifaires à mettre en place, et c'est tout à fait faisable. C'est d'autant plus intéressant pour un opérateur que s'il sait qu'à proximité, il a plusieurs clients qui vont tourner sur sa borne, c'est que sa borne, elle va être utilisée et elle va être payée. Donc ça peut se faire.
La démocratisation ou pas de la voiture électrique, on en parle dans le Téléphone Sonne avec Clément Montlison, qui est délégué général de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, avec Léo Larivière, qui est responsable transition automobile du think tank Transport et Environnement, et avec vous, Luc, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Pardon, je vous ai fait patienter longtemps, on vous écoute.
C'est pas grave, merci tout d'abord pour vos émissions et merci à France Inter d'exister. Je voulais revenir sur une question fondamentale. Pourquoi a-t-on nécessité de créer des véhicules électriques et d'aller vers le véhicule électrique? Il me semblait, me rappeler que c'était pour le bilan carbone et pour des raisons écologiques, il me semblait. À mon avis, le chemin qu'on a pris actuellement avec les véhicules électriques, c'est-à-dire des véhicules qui vont jusqu'à plus de 2 tonnes et 500 kg de batterie, ça va pas vraiment surtout pour transporter 70 ou 90 kg de viande, ça va pas vraiment dans le sens de l'écologie et du bilan carbone. Donc je me demandais si la solution première, avant de penser aux véhicules électriques, ça serait pas de penser déjà plus sobre, donc beaucoup plus léger, beaucoup moins équipé, et d'accepter cette transition vers du moins sophistiqué, du plus léger, du moins équipé. Voilà. Et à côté de ça, développer des voies qui sont un peu engagées, concernant le, par exemple, le rétrofit, c'est-à-dire il y a des véhicules qui sont encore tout à fait en état, qui sont des bons véhicules parmi des petits véhicules, et les rétrofiter, encourager le rétrofit, c'est-à-dire le rééquipement en électrique, même si ça a un coût, ça atteindra pas le coût d'un véhicule neuf. Ou une autre piste qui n'est pas du tout explorée pour l'instant et que j'explore à titre personnel et modestement, c'est la bi-énergie, c'est-à-dire le fait de prendre un tout petit véhicule très léger, thermique, et de lui greffer sur le deuxième essieu, par exemple si c'est une traction avant électrique, de greffer sur l'essieu arrière une motorisation électrique pour avoir de la bi-énergie.
Okay. Donc voilà, faut quand même savoir faire. Vous avez l'air de savoir quoi faire avec vos 10 doigts, Luc.
Ouais, mais c'est des pistes à encourager pour pas que actuellement, comme on l'a dit un journaliste sur vos ondes, la voiture électrique, c'est plus pour sauver l'industrie automobile que pour sauver la planète. Et comme l'a dit Charlie Hebdo, ça paraît être la dernière arnaque avant l'apocalypse, c'est ce qui me semble.
Et rapidement s'il vous plaît.
Juste, j'avais une question, on a parlé de l'entretien, et je suis assez d'accord, c'est assez logique qu'il y ait beaucoup moins d'entretien, la question, c'était quid en cas de choc, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, qui disent qu'en cas de choc, même très léger, c'est-à-dire de l'ordre du déclenchement d'airbag, c'est-à-dire d'un gros coup de pied dans un pare-choc, c'est caricatural, un véhicule électrique devient très peu fiable et passe très vite à l'état d'épave.
Ok, voilà. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans ce que nous a dit Luc. On va prendre les choses tous les deux, Clément Molison et Léo Larivière. D'abord une chose, il y a le démarrage de ce que nous dit Luc que je trouve intéressant quand même. On a voulu, quand on se dit que la transition est électrique, d'abord en préambule, est-ce qu'on risque de se réveiller un matin en se disant « merde, il y a un truc beaucoup plus simple finalement » et la bonne solution, c'était pas l'électrique. Ce risque, il existe, non, Clément Molison, ou pas ?
Non.
Ok, c'est sûr.
Non, mais la question a un poil provoque. Je vous fais une réponse à un poil provoque. En fait, aujourd'hui, on a une chance, c'est qu'on a des voitures électriques. On a une solution qui est disponible, qui est crédible, qui est mature et qu'on peut massifier. C'est une super chance. Moi, j'entends tout à fait la question de la sobriété, et c'est très bien. La première question à se poser quand on veut acheter une voiture, c'est est-ce que j'ai besoin d'une voiture ?
Ouais, bien sûr.
Si la réponse, elle est non, achetez pas de voiture, prenez votre vélo, prenez les transports en commun.
Après,
il y a plein de Français qui ont besoin de leur voiture au quotidien, et à ces Français, quand ils en ont les moyens sur le marché du neuf, puis sur le marché de l'occasion, c'est vers l'électrique qu'il faut se tourner.
Et ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai entendu aussi, Léo Larivière, dans la question de notre ami auditeur, et il a raison, et en toute chose, ça s'appelle la transition, on a fait des véhicules électriques exactement sur le modèle des véhicules thermiques, donc qui sont finalement aussi lourds pour avoir exactement le même usage. Est-ce qu'il y a eu, à un moment, est-ce qu'on se dit que, il y a eu une espèce de forme, regardez, on fait même les vieux modèles aujourd'hui, la R5, la Twingo, etc., des modèles mémoriels qu'on transforme en électrique aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on s'est dit, peut-être qu'on pouvait faire tout à fait autre chose, trouver une autre forme, quelque chose qui nous transporte et qui est électrique, mais qui serait moins lourd et qui ne ressemblerait pas exactement à la voiture thermique qu'on avait laissée dans le garage précédemment ?
Oui, non, mais c'est tout à fait juste. On n'est pas obligé de défendre n'importe quel type de voiture électrique. En fait, sur le marché des voitures électriques, on a d'un côté, pour être un peu caricatural, on a Tesla avec des SUV produits en Chine, avec un mix qui est plutôt carboné, avec des grosses batteries qui vont être difficilement réparables et recyclables. Et de l'autre, on va avoir la R5 produite à Douai, avec une batterie réparable et recyclable, qui est plutôt un véhicule de taille raisonnable. Et donc, évidemment qu'il faut aller sur ce type de véhicule-là. Et comme l'a dit Clément, aujourd'hui, on a une dépendance automobile qui est forte, 60% des trajets et des distances parcourues par les Français se font aujourd'hui en voiture. Donc pour tous les gens qui sont dépendants de la voiture, la solution de décarbonation qui est effectivement mature, qu'on peut mettre à l'échelle, c'est la voiture électrique. Donc il va falloir aller sur des voitures électriques, mais effectivement des voitures plus sobres, avec une réparation des batteries, etc. Mais j'aimerais simplement revenir sur un point qui est quand même fondamental, qui est la question de l'impact environnemental de la voiture électrique, puisque l'auditeur a parlé d'arnaque environnementale. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on revienne, parce que c'est faux de dire que la voiture électrique a un impact environnemental plus important que la voiture thermique qu'elle vient remplacer. En fait, évidemment que la voiture électrique, comme les éoliennes, comme les panneaux solaires, comme toute solution technologique de la transition, a un impact environnemental. Mais la question, c'est de se demander, est-ce que cet impact environnemental est plus ou moins important que la voiture thermique qu'elle remplace. Mmh. Et là-dessus, la question, la réponse, elle est très claire. Du point de vue climatique, c'est ce que les scientifiques nous disent, notamment du côté du GIEC, c'est 3 à 5 fois moins d'émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie. Donc c'est moins d'émissions de CO2. Et deuxième élément qui est très important et dont on ne parle pas suffisamment assez aujourd'hui, c'est la question de la dépendance aux importations de pétrole. Mmh. Parce qu'à chaque fois qu'on utilise une voiture électrique, oui, on brûle du pétrole, et ce pétrole, on l'a importé depuis des pays qui sont de moins en moins des alliés de... Oui, des voitures thermiques, ah ouais, effectivement. Ouais, voilà, ma langue a fourché. Donc on importe ce pétrole depuis des pays qui sont de moins en moins des alliés de la France et de l'Europe.
J'entends ce que vous dites le lithium, en gros, c'est pas propre non plus, mais enfin c'est une fois pour la batterie, alors que le pétrole, c'est à chaque plein.
Exactement, en fait c'est ça, c'est-à-dire que pour produire une batterie de voiture électrique, il faut une quantité de lithium, une quantité de métaux qui est 500 fois moins importante que la quantité de pétrole dont on a besoin pour faire rouler une voiture thermique pour l'ensemble de sa durée de vie.
Et puisqu'on
Donc, il faut mettre ça en perspective, en fait.
Pardon de vous interrompre, Léo Larivière. Puisqu'on est dans la batterie, je voudrais qu'on écoute Mickaël. J'ai pas oublié qu'il y avait quelques questions supplémentaires dans la question précédente, je les ai notées. Mickaël est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Donc moi j'ai une voiture thermique qui a 18 ans, et je voulais savoir si une voiture électrique, ça pouvait durer 18 ans. Ou est-ce qu'il fallait un jour changer la batterie complète ? Est-ce que les constructeurs prévoient de changer les batteries ?
Plein de questions. Merci beaucoup, Mickaël, sur la fiabilité de la batterie, Clément Montlison. Est-ce qu'il va devoir changer de batterie ? Est-ce qu'on change au milieu, en fait ?
La durée de vie d'une batterie, elle est aujourd'hui entre 15 et 20 ans sur sa première vie. Sa première vie, c'est la vie en mobilité, c'est quand vous roulez avec. On considère que jusqu'à 70% de son autonomie, elle peut toujours rouler. En dessous, on considère que c'est plus vraiment apte, et dans ce cas-là, on peut l'utiliser en seconde vie, pendant encore 5 à 10 ans, pour faire du stockage d'énergie, notamment, pourquoi pas, du stockage d'énergie renouvelable. Mmh. En fait, une batterie, elle a un potentiel qui est beaucoup plus important qu'on se l'imagine, et une fois qu'on a fait tout ça, on le recycle. Là, encore, c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec le pétrole. Le pétrole, on l'extrait, on le détruit. Les minerais qu'on utilise dans la batterie d'une voiture électrique, on les extrait et on les recycle.
Il y avait une suite, je l'ai coupé un peu trop tôt, Mickaël, dans sa question. Il parlait des risques d'incendie d'une batterie qui vieillit. C'est un mythe ou une réalité, ça ?
C'est un mythe, surtout. Alors, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'une batterie de voiture électrique, ça doit se passer mal, ça se passe mal au tout début. Et après, ça suit une vie très, très classique. Vous avez un institut suédois qui a fait la comparaison, le risque il est 20 fois moins important avec une voiture électrique qu'avec une voiture thermique. Et ça, c'est évidemment rapporté au même niveau. On trouve des chiffres très similaires aux États-Unis où on voit que le risque est moins important. Encore une fois, ramené au même nombre de véhicules, on ne prend pas juste les cas d'incident. Donc non, il y a moins de risques d'incendie, et si les risques doivent avoir lieu, ils sont plutôt au début de la vie, pas à la fin.
Et puisqu'on parle de ce qui peut se passer si ça se passe mal, notre ami auditeur précédent, vous avez parlé d'un choc, l'idée que un choc pouvait être fatal pour après, en fait, est-ce que c'est une voiture qui supporte moins les chocs qu'une voiture thermique ?
À toute proportion gardée, je crois que l'auditeur parlait de juste déclencher l'airbag avec un coup de pied. Non, heureusement, on n'a pas besoin de retourner le véhicule
chez
le concessionnaire. C'est pas forcément plus fragile. La seule question à se poser, c'est est-ce que la batterie a été endommagée ou pas ? Quand on a un accident grave et que la voiture, on va regarder si elle est apte ou pas, comme on le fait avec une voiture thermique, on va regarder si la batterie, elle fonctionne. Il faut quand même avoir bien conscience, c'est que les constructeurs, quand ils ont commencé à fabriquer des voitures électriques, ils ont mis en place d'une part des systèmes de sécurité, notamment un système de management de la batterie, le BMS, et c'est-à-dire plein de capteurs partout, pour vérifier que un, tout se passe bien, et eux, ils voulaient aussi avoir des données. Aujourd'hui, on a bien plus d'informations sur l'état de santé d'une voiture électrique que sur une voiture thermique.
Yves nous laisse une note vocale un peu énervée, on la découvre ensemble.
Oui, j'aimerais quand même intervenir sur l'entretien zéro d'une voiture électrique, lave-glace seulement. Faut quand même pas nous prendre pour des imbéciles. Pneus, direction, silent block, freinage, climatisation. Enfin bon, il y a quand même dans une voiture autre chose qu'un moteur. Tout le reste doit être entretenu, les ampoules, etc. Une voiture qui a plus de 10 ans, 2011, avec du lave-glace seulement, je n'y crois pas.
Voilà, et il ne montera pas sur le siège passager notre ami Yves, Clément Molison.
Le coût d'entretien, alors il n'est pas de zéro, mais aujourd'hui on estime qu'il est diminué de 20 à 40%. Donc c'est quand même significatif. Évidemment qu'il y a un certain nombre d'entretiens qu'on doit toujours faire, ce qui est équivalent à une voiture thermique. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est le contrôle technique qui est plus espacé. Donc globalement, c'est des coûts moins chers. Évidemment, les coûts ne sont pas de zéro.
Léo Larivière, je reviens encore, pardon, parce que je l'ai vraiment laissé en route, le monsieur qui avait posé une très longue question et qui, alors lui, savait effectivement quoi faire de ses 10 doigts, mais notamment faisait du rétrofit, etc. Est-ce que ça a du sens d'imaginer d'électrifier un véhicule qu'on a déjà plutôt, en fait, que d'aller en racheter un? Ça a du sens d'imaginer ça ou pas?
Alors oui, ça a du sens, hein. Il y a de plus en plus d'entreprises d'ailleurs qui proposent ce type
de service. Mais du coup, est-ce que ça a du sens à grande échelle?
Et c'est ça le problème, c'est que ça a du sens effectivement, mais la question c'est est-ce qu'on est en capacité de rendre ce rétrofit industriel, de le déployer à grande échelle, et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc le rétrofit, ça aura sa place dans cette transition des voitures au même titre que les voitures électriques neuves, et d'ailleurs, l'impact environnemental d'un rétrofit est évidemment moins important qu'une voiture électrique neuve, mais la question c'est est-ce qu'on arrivera à faire suffisamment de rétrofit pour vraiment passer à
l'échelle? Mais est-ce qu'on devrait, en fait, Léo Larivière, est-ce qu'on devrait pas se dire il faut qu'il y ait un large pourcentage effectivement de rétrofit, parce que oui, c'est mieux, ça évitera au fond non seulement plus de production, mais aussi un autre coût pour les utilisateurs. Est-ce qu'on devrait se dire c'est une filière, il faut la développer?
Alors oui, c'est une filière qu'il faut développer. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire « ne vous inquiétez pas, nous allons trouver dans le futur des solutions qui nous permettront de faire autrement que ce qu'on a déjà ». Comme le disait Clément, on a la chance d'avoir aujourd'hui des voitures électriques qui nous permettent d'apporter une solution à la crise climatique, d'apporter une solution en termes de pouvoir d'achat aux gens qui sont dépendants de la voiture. Donc il faut saisir cette opportunité. On ne peut pas éternellement se dire « bon bah peut-être que demain on aura d'autres énergies, ou on aura du rétrofit, etc. ». Le rétrofit aura sa place dans le futur, mais à ce stade, ça n'est pas possible de le massifier vis-à-vis des enjeux qui sont les nôtres, notamment en termes environnementaux. Donc il faut parier sur la voiture électrique telle qu'elle est aujourd'hui.
Clément Montlison, en écoutant France Inter, figurez-vous, un matin, Dominique Seux, qui parle d'une invention chinoise que j'ai trouvée assez fascinante, et vous allez me dire, là aussi, si on se dit, imaginons-le, essayons d'en faire plus ou pas, ou est-ce que finalement ce sera inutile, c'était l'idée d'une voiture électrique qui avait un tout petit réservoir à essence pour le dernier kilomètre, justement pour s'éviter le problème éventuel d'un manque de bornes ou de choses de ce genre-là. Pareil, est-ce qu'on imagine des solutions et autre chose dans les voitures qui vont sortir maintenant? Est-ce qu'on imagine des choses de ce genre-là où on se dit non, on n'en aura pas besoin, le suréquipement en bornes, bientôt dans notre pays, dans l'Europe, va être à peu près au bon niveau?
Mais en France, c'est déjà le cas. En France, aujourd'hui, on est à 160 000 points de recharge, globalement. Vous regardez leur taux d'utilisation, c'est moins d'une recharge par jour. Donc on est quand même très loin de la saturation. Sur la technologie en tant que telle, j'ai envie de dire, si elle fait ses preuves et que les gens l'utilisent et que ça trouve sa pertinence, pourquoi pas? Honnêtement, il n'y a vraiment pas de sujet en la matière. C'est très rare, en fait, les gens qui tombent en panne parce qu'ils n'ont pas pu se recharger. Aujourd'hui, il y a des bornes partout. Un de vos auditeurs, pardon, j'ai oublié lequel, disait a priori, il y a des bornes, je ne sais pas comment les trouver. Prenez votre application Google, prenez Waze, prenez d'autres applications, tapez bornes de recharge. Regardez où elles sont. Elles sont partout autour de vous.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à tous pour vos nombreux appels dans ce téléphone sonne. La question des petits bateaux, c'est celle de Marius. Il a 9 ans.
Dans quel pays le premier homme a-t-il vécu? Merci, au revoir.
La réponse dans 3 minutes.